Mais d'abord, on va aller rejoindre notre ami Luc Lavoie. Bonjour, Luc.
Salut, Bernard.
Bon, alors, on va commencer, comme on le fait beaucoup cette semaine, avec la situation en Israël. Ça ne s'améliore pas, hein, on peut dire ça?
Non, ça ne s'améliore pas du tout. Depuis hier, l'armée israélienne et ses avions de combat et son artillerie bombardent sans arrêt la bande de Gaza. Il y a eu les problèmes qu'on connaît à Jérusalem sur l'esplanade des mosquées qui, au fond, ont servi de déclencheur à ce qu'on est en train de vivre. Et là, la Cisjordanie, ce qu'on appelle les territoires occupés, autres que Gaza, viennent de se soulever aussi. Alors, il y a des troubles et des violences un peu partout. Netanyahou a dit clairement, c'est loin d'être fini. Ce que disent les Israéliens, c'est qu'ils ont effectivement pénétré dans les tunnels utilisés par les dirigeants du Hamas pour contrôler la guerre. Parce que ce qu'on est en train de vivre entre le Hamas et Israël, on a vécu exactement la même chose en 2014. Alors, c'est presque le même scénario. À tel point que je me permets, ayant été très critique d'Israël, de dire dans le cas du Hamas qu'il y a un cynisme dans leur comportement qui est incroyable. C'est vrai que les problèmes avaient à voir avec l'expulsion de Palestiniens de Jérusalem-Est, puis est arrivé ce qui est arrivé sur l'esplanade des mosquées. Tout ça, c'est vrai. Mais le Hamas savait, en lançant ses 180 premiers missiles, qu'il y aurait de la rétorsion. Et là, ils en ont lancé une centaine au début, une coupe de 100, et là, on est rendu à 1800 missiles. Alors, ce que je suis en train de dire, c'est que les leaders du Hamas savent très bien qu'en faisant ce qu'ils font, il va y avoir des morts chez les enfants, chez les femmes, chez les vieillards, chez tout le monde. Il va y avoir de la destruction massive. Mais pourquoi ferait-il ça, tu vas me demander? Ben, c'est parce que la question palestinienne n'est plus une question prioritaire à l'échelle mondiale. Et ils se disent, c'est peut-être mon barreau d'honneur, peut-être pas, mais en tout cas, à l'heure actuelle, je profite de la situation pour vous montrer des enfants massacrés, pour vous montrer comment... Mais le fait est que, oublions qu'Israël a ses défauts, il n'y a pas un pays du monde qui se laisserait lancer 1800 missiles par la tête puis qui resterait les bras croisés, il faut quand même l'admettre.
Ouais.
Alors, c'est pas parti pour bien finir. Le Hamas n'a pas les mains plus propres qu'Israël dans cette affaire-là.
Je me pose la question, Luc, puis je suis pas la question palestinienne et puis le conflit israélo-palestinien autant qu'avant. Donc, je marche un peu sur des œufs. Mais je me pose la question, jusqu'à quel point... Alors, le Hamas contrôle la bande de Gaza. Hein,
oui.
C'est essentiellement le gouvernement de Gaza, c'est le Hamas.
Oui.
En Cisjordanie, ça reste encore l'OLP, là, pour...
Ben, ce qu'on appelle aujourd'hui l'autorité palestinienne.
Oui, voilà.
Qui est un descendant de l'OLP.
De l'OLP, qui est une voie beaucoup plus modérée. Laisse-moi terminer. Et donc, jusqu'à maintenant, il n'y avait pas eu d'embrasement de la Cisjordanie. Là, tu nous dis que ça vient de commencer. Je me pose la question, parce que le Hamas ont un objectif politique en faisant ce qu'ils font. Ce n'est pas des innocents. Et évidemment, ils sont aidés par l'Iran. Il ne faut jamais oublier que derrière le Hamas, il y a l'Iran, bon, qui les fournit en armes. Là, les roquettes là, qu'ils tirent, là, c'est
ça
des
vient d'Iran.
Ça vient d'Iran. Bon, je me pose la question, puis je, honnêtement, je lance ça pour ta réflexion, pour la discussion que nous avons. Je me pose la question jusqu'à maintenant. Peut-être que l'objectif stratégique du Hamas, c'est de montrer aux Palestiniens qui sont en Cisjordanie, vous voyez, vos vrais défenseurs, ceux qui sont prêts à aller au combat contre l'État d'Israël, c'est nous, le Hamas. Jusqu'à quel point est-ce que leur stratégie actuelle n'est pas liée à une tentative de prendre le contrôle politique de la Cisjordanie au détriment de l'autorité palestinienne qui, dans ce conflit-là, visiblement, en tout cas, moi, j'ai lu un peu là-dessus, là, je lis le New York Times à tous les jours et tout ça, l'autorité palestinienne, jusqu'à maintenant, n'a pas vraiment été un facteur, d'après ce que j'ai pu voir, d'après ce que j'ai pu lire.
Tu as parfaitement raison, et tu sais qu'il devait y avoir des élections palestiniennes, autant dans le Hamas que dans les territoires occupés de Cisjordanie, et puis quand les troubles ont pris à Jérusalem-Est, là, quand on a voulu expulser des Palestiniens de l'endroit, ce qui s'est passé, c'est que Mahmoud Abbas, celui qui a en quelque sorte pris la succession d'Yasser Arafat à la tête de l'Organisation de la Palestine, Mahmoud Abbas a annulé les élections. Ça veut dire que ça fait 15 ans qu'il n'y a pas eu d'élection. Pourquoi il les annule constamment? Parce qu'il va perdre. Parce que le Hamas va gagner. Parce que les Palestiniens n'ont plus confiance en Mahmoud Abbas. En fait, quand j'avais été en Israël il y a 2 ans, j'avais jasé avec des gens là, bien branchés, et tu sais que c'est assez répandu là-bas. On pense que Mahmoud Abbas est quelqu'un qui a été placé là par la CIA. Je dis pas que c'est vrai, mais c'est pas Yasser Arafat. C'est pas quelqu'un vers qui les Palestiniens se tournent et disent « Voici notre leader,
non.
Il va nous défendre. »
Exact. Okay? Exact.
Et ce que tu viens de soulever comme raisonnement, c'est tout à fait ce qui est en train de se passer. Le Hamas dit « C'est moi qui protège les Palestiniens ». La bande de Mahmoud Abbas qui sont vendus à Israël, oubliez-les, c'est nous autres qui mènent le show.
Bon.
Alors, mais ça va tourner à quoi? Pour mener le show, il va y avoir combien de centaines de morts, combien d'enfants, combien de sang versé? Parce que tu vois, je soulève ça comme ça philosophiquement. Qu'est-ce que la paix? La paix, c'est quand on arrête de se tirer dessus. La paix, c'est pas quand on trouve une solution juste et équitable pour tous. Ça, c'est l'idéal. Mais la paix, c'est d'empêcher que des humains en tuent d'autres. Et faisant ce qu'ils ont fait, le Hamas savait qu'Israël allait sauter sur l'occasion. Et comme tu dis, ils sont pas complètement cinglés.
Bon.
Ils avaient très bien compris
bon.
Que c'est ça où, c'était ça où ils disparaissaient.
Bon, alors, Luc, sais-tu quoi? C'est une question qui est tellement complexe. On va prendre le temps de la vider, si je peux dire.
Bien sûr.
Et s'il faut, on va aller à la pause, puis on continuera avec tes autres sujets après la pause. Parce que avec je veux plaisir. Continuer à discuter un petit peu avec toi de ce qui se passe présentement. Donc,
Un sujet qui me passionne.
Oui, puis moi aussi. La raison pour laquelle je veux qu'on prenne le temps, c'est que je veux t'entendre sur ce qui s'est passé hier, alors que l'armée israélienne annonce que des troupes israéliennes sont à Gaza, donc ont pénétré dans le territoire de Gaza pour... Quoi, 1 heure, 2 heures plus tard, annoncer que finalement c'est inexact, des troupes sont massées à la frontière entre guillemets entre Israël et Gaza, mais n'ont pas pénétré dans le territoire de Gaza. Et là, ce matin, c'était quand même assez fascinant d'entendre les analystes dire, est-ce que c'est une erreur de communication ou est-ce que c'était une stratégie? Et l'une des hypothèses évoquées, puis c'est là-dessus que je veux t'entendre, c'est que Israël aurait fait par exprès. Pour dire « on rentre dans Gaza », pour faire en sorte que les combattants du Hamas, et en particulier les chefs militaires du Hamas...
Recule.
Non. Cherche refuge dans les tunnels dont tu as parlé tout à l'heure.
Oui.
Pour... donc, Israël, par une fausse information, les amène à trouver refuge dans les tunnels pour par la suite...
Prendre
d'assaut les tunnels et donc tuer un certain nombre de ses dirigeants et évidemment les combattants qui sont autour d'eux. Est-ce que pour toi, c'est une hypothèse qui te semble vraisemblable?
Non seulement vraisemblable, je vois pas d'autres hypothèses qui pourraient tenir la route.
Tu penses que c'est impossible qu'Israël se soit trompé hier? Là,
quand... Non. Faut toujours se rappeler de la fameuse phrase, là. Dans la guerre, la première victime, c'est la vérité. La guerre implique que tu vas utiliser des moyens de propagande comme ceux-là. C'est même enseigné dans la doctrine militaire ici au Canada. Donc, tu prends le contrôle du message. Ils ont pris le contrôle du message. Et t'as raison, ils sont partis se cacher dans les fameux tunnels, puis une fois qu'ils étaient dans les tunnels, ils sont rentrés, puis ils les ont éliminés. Ils ont éliminé des dizaines de chefs du Hamas.
Tu dis « ils les ont ». On pense que c'était ça l'objectif. Est-ce qu'ils les ont éliminés? Est-ce qu'on le sait, ça?
Ben, ce qu'il dit ce matin, le porte-parole de l'armée israélienne, a dit qu'ils sont en train de nettoyer les tunnels. Nettoyer, comment tu nettoies des endroits?
Non, je comprends. Non, mais qu'ils nettoient les tunnels, j'en doute pas. Mais que la stratégie ait fonctionné et qu'ils aient pu tuer une partie de la direction militaire du Hamas par cette tactique-là, par ce mensonge-là, pour les amener donc là où ils les attendaient, là. Je serais étonné qu'Israël soit aussi, transparente dans sa transmission d'informations, Luc.
Et n'oublie pas, là, que c'est une des forces armées Israël les plus puissantes au monde à cause du fait qu'ils sont tellement sophistiqués, ils sont tellement à la fine pointe de la technologie. En plus, ils ont accès à tous les moyens d'espionnage des Américains, les satellites et tout. Alors, c'est une armée puissante, c'est une armée extrêmement entraînée et c'est une armée qui ne ferait pas d'erreur comme ça. Quand ils ont fait ça, c'est parce qu'ils avaient calculé le coup.
Bon, alors, à suivre, une chose est sûre, c'est qu'on ne s'enligne pas du tout vers une désescalade actuellement. On est encore en escalade.
Là, à moins que le Hamas recule, mais... Je pense pas qu'ils vont le faire. Pas maintenant, ils vont reculer éventuellement.
Mais ça finit tout le temps de la même manière, ces affaires-là.
Oui, c'est le même film qui recommence. Puis
Luc, c'est ce qui est arrivé à un moment donné...
En 2014.
Puis c'est ce qui est arrivé à Beyrouth, tu te rappelles? À Beyrouth, le Hezbollah a décidé de mener une guerre d'usure, entre guillemets, contre Israël. Qu'est-ce que Israël a fait? Ils ont détruit des quartiers complets de Beyrouth jusqu'à temps que, finalement, le Hezbollah décide d'arrêter les combats. Parce que la force militaire d'Israël est disproportionnée. Je veux dire, le Hamas, ils peuvent bien tirer des roquettes tant qu'ils voudront. Jamais, ils n'égaleront la force, la puissance militaire, la force de frappe de l'armée israélienne. Là.
Ouais, mais là-dessus, il y a différentes interprétations. On pense, moi, je suis de ceux qui pensent ça, d'ailleurs, que la fameuse guerre de 2006, là, quand les forces israéliennes sont rentrées en territoire du Liban pour aller frapper sur le Hezbollah, on pense que cette fois-là, c'est la seule fois que l'armée israélienne a été battue. Parce qu'ils avaient sous-estimé le Hezbollah, ils avaient sous-estimé leur armement, ils se sont embourbés dans des positions intérieures au Liban, et puis là, ils ont été encerclés, et enfin, il fallait qu'ils reculent. Et pour la première fois de l'histoire... Ils ont reculé.
Oui, mais ce que je veux dire, c'est que la destruction, la destruction matérielle, le nombre de morts chez les civils, chez les habitants de Beyrouth, c'est incroyable. Là. C'est pour ça que moi, je regarde ce qui se passe présentement. Ce sont les civils palestiniens, d'abord et avant tout, qui payent le prix de cet affrontement-là. Là,
oui, c'est pour ça que je parle du cynisme du Hamas, parce que ces gens-là là, qui sont miséreux, on le dit souvent, le Gaza, c'est une catastrophe humanitaire.
Toi, t'es allé, hein? T'es allé.
Ouais,
moi, je suis allé aussi à Gaza.
C'est
à Gaza.
C'est incroyable.
Écoute, je suis allé, moi, parce que j'accompagnais Jean Chrétien lors de sa tournée. Fait qu'on avait passé quand même, on avait passé 7-8 heures peut-être à Gaza, je dis ça de mémoire, là. Mais assez pour voir, tu sais, on a voyagé dans Gaza. De toute façon, c'est pas bien grand, Gaza, là.
C'est tout petit, puis c'est la plus grande densité de population au monde.
Écoute,
vivre croquevillés les uns sur les autres. Puis là, le taux de chômage tombe jamais en bas de 70%. Ils sont enclavés, ils peuvent même pas pêcher parce qu'ils leur ont fait un blocus en avant de Gaza sur la Méditerranée. Ils sont pris comme en souricière. Là. Ils ont été entassés là. Puis si tu restes tranquille, on tirera pas sur toi. Puis si tu restes pas tranquille, tu vas en manger à ton goût.
Ouais, fait que c'est ça. Il y a eu une tentative là de médiation là pour essayer de désescalader.
Envoyer un émissaire américain.
Pour le moment,
c'est tout le temps le même jeu. Là.
Pour le moment, ça n'a rien donné. Alors, je sais pas. Moi, sais-tu quoi? Puis encore une fois là, j'observe ça. Là, je me prétends pas du tout expert. Je pense pas que l'armée israélienne va rentrer avec des troupes dans Gaza. Moi, honnêtement, ça serait très, très risqué pour eux. Avec la force de frappe qu'ils ont, la force des airs, là,
Tu l'as vu, l'endroit, tu peux pas circuler dans Gaza. Écoute. Tu peux pas rentrer avec des véhicules blindés, ils passeront pas. Ah, ils vont passer en détruisant les buildings tout le long de leur passage. Mais Gaza, c'est une espèce de fourmilière d'individus qui ont rien à faire, qui sont malheureux, puis qui se demandent quand est-ce qu'il va leur sauter une bombe sur la tête. C'est ça, Gaza.
Bon, écoute, on va s'arrêter, Luc. Au retour, on va parler du laboratoire de Wuhan, parce que là, il y a des chercheurs internationaux qui reprennent une hypothèse que tu avais émise dès le début de la pandémie, c'est-à-dire la responsabilité de ce laboratoire de virologie de Wuhan dans la propagation du virus. Hein, tu l'as soulevé publiquement. Puis on va parler aussi, on est un peu cohérent là, on va parler du retrait des forces américaines de Kandahar en Afghanistan. C'est quand même... Honnêtement, dans le conflit avec les talibans, Kandahar,
c'était le cœur.
Et puis là, les Américains se retirent.
Les Canadiens étaient.
Voilà. Alors, tirez vos conclusions. Les Américains foutent le camp de Kandahar. Qui pensez-vous a gagné? Alors, ne bougez pas. Je reviens avec Luc. On continue cette discussion. On s'en va en Chine. On s'en va en Afghanistan dans un instant. De retour avec Luc. Alors Luc, parlons un petit peu donc de ces chercheurs, une vingtaine de chercheurs qui mettent en cause la responsabilité du fameux laboratoire de Wuhan.
Alors, les gens doivent se rappeler que Wuhan, c'est l'endroit en Chine d'où est venu le virus.
Ouais.
Et que les Chinois ont avancé comme idée que ce virus-là avait été sans doute transféré d'une chauve-souris vers un pangolin, qui est un animal qu'on vend là-bas et qu'on mange, mm-hmm. et que ça serait passé vers l'humain. Maintenant, à Wuhan, il existe un des seuls 4 ou 5 laboratoires dits P4. C'est-à-dire, ce sont des laboratoires de recherche en virologie qui sont tellement dangereux et tout ça que c'est vraiment comme des forteresses. Alors, ce P4-là, il a été inauguré en grande pompe. Ça avait été construit avec l'aide de l'Institut Pasteur en France. Et soudainement, tu es dans la ville où on trouve une des 4 ou 5 plus grandes installations de laboratoires pour traiter des questions virologiques. Mm-hmm. Tu te retrouves dans un laboratoire comme celui-là où effectivement ils ont pour tâche de tester des virus, de les fabriquer en laboratoire, de voir comment les combattre. Officiellement, c'est parce que c'est ainsi qu'on va être préparé à la prochaine pandémie. Il y a aussi des gens qui pensent que le laboratoire sert à faire des armes bactériologiques.
Oui, voilà.
Alors, ce laboratoire-là, les Chinois ont fait comme si ça n'existait pas. Non, 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 c'est venu du pangolin, de la chauve-souris. L'histoire est un peu invraisemblable. Et là, il y a une équipe de l'Organisation mondiale de la santé qui s'est rendue sur les lieux pour enquêter, mais ils enquêtaient accompagnés. Il y avait un scientifique de l'OMS accompagné d'un Chinois. Ils étaient tous accompagnés, ils étaient surveillés.
Oui.
Ils sont arrivés et ils ont dit... l'hypothèse du débordement zoonotique, ça veut dire la chauve-souris qui s'en va vers le pangolin, ils ont décrit ça comme probable, voire très probable, au détriment d'un incident humain extrêmement peu probable. Ce que disent les scientifiques qui ont signé cette lettre, c'est une lettre qui a été publiée en France, c'est que ils ont aucune façon de soutenir leur argument. Et ils ont même mis la main sur des travaux scientifiques en virologie, qui ont été réalisés à Wuhan, et ça indique exactement dans quel secteur d'activité ils sont actifs, et ça donne drôlement qu'il y a de l'air qu'il y a des coronavirus dans le paquet, qui sont fabriqués sur les lieux, et les Chinois ne veulent pas... Écoute, pensons juste à la chose suivante. Mettons là, qu'on arrive à déterminer clairement que cette affaire-là est sortie par accident probablement du laboratoire, parce qu'il y a déjà eu des gens, des diplomates américains qui avaient dit le problème avec ce laboratoire, c'est que il y a des failles de sécurité très graves. Mais imaginons que ce virus est sorti de ce laboratoire, virus fabriqué par des mains humaines et qui s'est retrouvé dans la population, puis qu'on en a la certitude, ça va faire mal à la Chine. Je veux dire, il va y avoir des poursuites qui est sur la scène internationale. Et surtout, la Chine va devoir nous expliquer comment ça se fait qu'elle nous a empoisonnés comme ça. Alors, c'est ça qui est l'affaire qui est au milieu. Puis, je le répète souvent, Bernard, quand on parle de ce sujet-là, moi, je suis pas dans les complotistes là, qui pensent que c'est ta-ta-ta-ta. Je pense qu'il est arrivé un accident, puis je pense que la Chine fait tout pour le cacher.
Tu penses pas qu'ils ont fait par exprès, là?
Non, je pense pas ça.
Moi non plus. Tu parlais de la France. Le Monde a consulté des experts, Luc, ouais. Mais les fameux experts qui ont signé la lettre, elle a d'abord été publiée dans la revue américaine Science.
Science, effectivement.
Ce qui est extrêmement... ce qui est probablement la revue scientifique, ou en tout cas l'une des revues scientifiques les plus réputées, là, les plus crédibles.
Lancet et Science, sont les deux références.
Fait que, tu sais, quand ils disent, eux autres, que l'hypothèse que le virus se soit échappé du laboratoire de Wuhan, ils disent cette hypothèse-là a été écartée à tort. Eux autres, ils pensent que c'est une hypothèse très sérieuse, là.
Très sérieuse, ça a été, disent-ils. Ils disent... Ce que les experts de l'OMS nous ont rapporté, on dirait que c'est quelque chose qui a été dicté par la Chine.
Donc, eux autres,
ils accordent aucune crédibilité.
Bon.
Je ne sais pas si on va le savoir un jour, mais c'est quand même très, très troublant.
J'allais dire troublant. Parlons un petit peu de Kandahar. Donc, les États-Unis qui retirent leurs troupes de la base aérienne de Kandahar, d'abord, ça marque, c'est pratiquement la fin du retrait des troupes américaines. Il doit en rester un peu à Kaboul, mais pour l'essentiel, elles auront quitté l'Afghanistan. Et puis, c'est très symbolique, là, Luc.
Là, il faut savoir que Kandahar, c'était le bastion des talibans,
ouais.
À partir duquel ils ont pris le pouvoir à l'échelle du pays pour ensuite s'en faire déloger, justement, par les forces de l'OTAN. Alors, Kandahar, c'est là qu'était installer les soldats canadiens, des soldats venus des Pays-Bas. Il y en avait d'un peu partout dans le monde. Il y avait une grosse base aérienne. C'était une des deux plus grosses bases en Afghanistan. Et là, Kandahar vient d'être... Les Américains se retirent complètement. Ils vivent présentement une espèce de cessez-le-feu à cause de la fête de l'Aïd, la fin du Ramadan. Mm. Mais pendant ce temps-là, les Américains se retirent à toute vitesse. Et ils devaient se retirer le 1er septembre en vertu d'une entente qui avait été signée par Pompeo à l'époque de Donald Trump. Et finalement, ils ont retardé leur retrait jusqu'au 11 septembre 2021, date symbolique. Et ils sont en train de l'accélérer. On dit que l'armée américaine dit avoir avancé de 6 à 12 % dans son retrait. C'est très compliqué, hein? Faut savoir que se retirer de ce genre d'installation, écoute, c'est énorme, tu sais, Bernard, c'est énorme. Il faut que tu débâtisses ça, ben il faut que tu garantisses qu'il n'y aura pas de pollution que tu vas laisser derrière. Il faut que tu ramènes l'équipement qui mérite de l'être. Il faut que tu te débarrasses du reste. C'est hyper compliqué faire ce genre de retrait. Oui. Mais ce que les Américains montrent par ce retrait-là à Kandahar, c'est qu'ils sont bien sérieux. Ils sont en train de dire aux talibans, fais pas de conneries, là, parce qu'on s'en va pour le vrai. On n'est pas en train de te déjouer, on s'en va pour
Attendez qu'on parte, là, vous allez pouvoir reprendre le contrôle de Kandahar. Là. C'est ça aussi qui va arriver, mon cher.
C'est ça qui va arriver en deux temps, trois mois.
Voilà.
Parce qu'ils ont l'appui de la population.
Luc, je te souhaite un bon week-end.
Bon week-end à toi aussi, à tous nos auditeurs.
Absolument. Puis
on se souhaite du beau temps.
On se souhaite du beau temps. On lâche pas. On commence vraiment. Là, les nouvelles sont très, très bonnes. T'as entendu, hein, Madame Tam puis Monsieur New là, qui ont dit le pire de la troisième vague est derrière nous. Et vraiment là, ça va. Faut pas lâcher. On est vraiment là. On est sur le bord de récolter le fruit de nos efforts, mon cher Luc.
Puis les Québécois font bien ça, là, comprends-tu? Puis nos jeunes, puis tout ça. Continuez, s'il vous plaît, continuez. On va tous être heureux ensemble.
Bon week-end.
Salut.
On s'en va à la pause au retour. On parle abeilles.